plus.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit. Ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut dépasser ton permis. Contre la polémie et ton fuchsie. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends mon tâche dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi,
c'est Camille Info.
Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est Dodoué.Dodoué, la radio plus ribelle.
Paniquez, paniquez tout. Attends, paniquez pas, niquez tout.
Canu Info du vendredi.
Bonsoir à tous, on est bien vendredi, il est 19h08, on est presque pas trop en retard. Et bah comme tous les vendredis sur 102.2 FM Radio Canu, c'est évidemment les Canu Info. Alors, de quoi on va vous parler ce soir?
Ce soir, on va parler enfermement et on va vous parler chiffres sur la surpopulation carcérale.
Ensuite, on aura une rubrique nucléaire où on vous parlera notamment du triste anniversaire de Fukushima, puisqu'on est le 11 mars.
Comme ça va être des infos atomiques, on va aussi parler de Tchernobyl ce soir.
Et puis on va aussi parler du linge sale, de la plaine de lin et du Bugey.
Voilà, et en fait, on changera de registre, on parlera du gaz de schiste et d'indépendance énergétique. Puisqu'on va avoir le choix, a priori, entre le nucléaire et le gaz de schiste.
Ça a l'air super.
Le charbon, le gaz, tout ça.
Et puis, comme toutes les semaines, il y aura l'agenda de la semaine si vous voulez sortir un peu et rencontrer des gens ou voir des potes.
Et puis, la traditionnelle rubrique ACAB.
D'ailleurs, Vous pouvez nous appeler si vous voulez nous envoyer des ACAB.
Le 04 78 39 18 15. 04 78 39 18 15.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et ben malheureusement, on va devoir vous reparler des prisons ce soir. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que les nouvelles sont rarement bonnes quand on parle des tôles, mais on va quand même le faire. Alors, cette fois-ci, on avait parlé, c'est vrai qu'il y a un mois, de l'indemnité qui sautait pour les prisonniers, des problèmes d'accès aux services numériques. Mais cette fois, on va revenir un peu à un truc qui est finalement une des bases de la tôle en France, c'est la surpopulation carcérale. Donc, il faut savoir que tous les mois, c'est l'administration pénitentiaire qui rend public le nombre de personnes détenues dans chaque établissement, le nombre de places disponibles et du coup, le taux d'occupation qui en résulte. Donc, ces chiffres, ils traduisent souvent une surpopulation carcérale alarmante. Mais le problème, c'est que même si les chiffres que publie l'État sont déjà dégueulasses, en vrai, ils sont tout à fait biaisés. Parce qu'en effet, ils choisissent, c'est une moyenne qui est lissée sur tous les quartiers. Et du coup, ça permet effectivement de faire baisser la moyenne et de ne pas montrer les quartiers qui sont les plus concernés par des surpopulations qui sont complètement folles. En l'occurrence, généralement, c'est les quartiers des hommes majeurs qui sont les plus saturés. Et du coup, qui sont entre guillemets lissés avec les places de quartier pour les femmes, pour mineurs et la semi-liberté, qui eux sont plutôt rarement complètement pleins. Par exemple, à la maison d'arrêt de Chambéry, ce que nous dit l'administration pénitentiaire, c'est qu'au 1er janvier 2022, il y avait une capacité opérationnelle de 86 places pour 124 détenus, ce qui fait déjà un taux d'occupation de 144%. Il convient cependant de retrancher à ces 30 places, à ces chiffres, les 30 places de semi-liberté, les 20 détenus qui bénéficient de ce régime, et là, on arrive à un taux d'occupation de 180%. Appliqué à toutes les prisons, et notamment aux maisons d'arrêt, les taux réels donnent vraiment le vertige. On est à plus 38 points au quartier de la maison d'arrêt des hommes de Limoges, et le taux d'occupation, d'un coup, il passe de 174%, qui est déjà complètement affolant, à 212%. Plus 50 à Lorient, où on va passer tranquillement des chiffres de l'État qui nous disent « à 154%, on entasse un peu les taulards, mais franchement, ils trouvent que ça va » à 206%. Plus 32 à Tarbes pour atteindre un taux de 217% au lieu des 185% affichés par l'État. À Perpignan, c'est la barre des 250% pour taux d'occupation qui est dépassée. Alors, c'est un peu comme ça que, au 1er janvier 2022, l'État nous racontait qu'il y avait seulement cinq quartiers qui connaissaient vraiment une surpopulation supérieure à 200%. Mais sauf qu'en fait, si on fait les vrais calculs, du coup, on arrive à deux fois plus, donc 10 quartiers. Alors, on peut bien les citer. Il y a Bordeaux-Gradignan, Tulle, Limoges, La Roche-sur-Yon, Lorient, Foix, Carcassonne, Nîmes, Perpignan et Tarbes. Alors évidemment, ça fait un moment que les stades de l'État, elles sont critiquées, mais qu'il n'en a cure. Et entre autres, il y a aussi un petit jeu qui est assez sympa pour l'État, c'est qu'en fait, les taux d'occupation, ça joue sur les primes. Du coup, ils ont tout intérêt à les lisser. Ça, c'est Ifo qui nous le dit. Que, en gros, c'est ça. Quand on travaille dans des établissements surencombrés, on a une prime. Et la prime, elle est calculée en fonction du taux d'occupation. Donc forcément, quand on prend les chiffres qui nous arrangent pour faire des moyennes qui veulent finalement pas dire grand-chose de la réalité, de ce qui se passe, alors on va pas trop pleurer pour les matons, mais on va quand même continuer de penser au taulard. Et malgré tout, on va penser à comment l'État continue d'économiser des sous en ne versant pas les primes adaptées aux personnes qui travaillent. Donc comme ça, c'est tout bénef. On peut entasser des taulards tranquillement avec des taux d'occupation, donc 200%. Pour ceux qui ne seraient pas très très forts en maths, c'est quand même deux fois plus. C'est-à-dire qu'il y a pas un lit, mais n'empêche que dans une cellule, on pourrait mettre deux personnes, on en met quatre. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça crée dans le quotidien des personnes qui se retrouvent déjà enfermées. Et en plus, on fait des économies, donc en baissant les primes des personnes qui travaillent là-bas, d'une pierre deux coups finalement. Alors évidemment, la France, elle est condamnée. Alors tous les ans, on a un petit mot qui passe, qui dit « oulala, la surpopulation carcérale, c'est chiant ». Alors le problème, c'est que la solution de l'État, c'est plutôt de construire des tôles au lieu d'arrêter d'y envoyer des gens, évidemment. Ou peut-être de permettre l'accès aux soins des personnes. Enfin, il y aurait peut-être mille façons de faire autrement. Mais en tout cas, voilà, tous les ans, on a le petit discours qui passe discretos en disant « ouh, on voit bien, c'est pas bien, mais finalement, on n'en a pas grand-chose à foutre ». Et on va continuer de vous livrer des chiffres qui traduisent une partie de la réalité, mais une partie qui est très très biaisée et qui ne montre pas les réelles difficultés qui sont vécues par les personnes enfermées. Par ailleurs, évidemment, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France assez régulièrement, et la dernière fois, c'était en janvier 2020. Mais finalement, c'est des condamnations qui n'ont aucun effet. Et nous, on continuera ici de penser aux tolards et aux tolardes qui vivent dans des conditions inhumaines où leurs conditions de vie n'ont rien de digne. Et malheureusement, ça ne semble pas vouloir s'arranger.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et donc aujourd'hui, dans cette grosse rubrique nucléaire, on va d'abord vous parler du triste anniversaire de Fukushima, puisqu'on est le 11 mars et que c'est le 11 mars 2001.
2011,
putain.
C'est pas encore aussi vieux que ça.
New York et les tours.
Ah oui, c'est ça. Oui. Ouais, putain, merde. Putain, je mélange toutes les catastrophes. Pardon. 2011, qu'a lu donc la catastrophe de Fukushima. Juste un petit rappel, quand même, elle a été classée niveau 7 à l'échelle de l'INS. C'est au même niveau que la catastrophe de Tchernobyl.
On ne peut pas faire plus haut.
Donc c'est une échelle qui va de 1 à 7, du coup.
Voilà.
Okay. Voilà, ouais. Et juste pour faire court, en fait, la catastrophe est liée à un arrêt du refroidissement des réacteurs suite au tsunami. Et en fait, donc, ça a provoqué la fusion de certains cœurs dans les réacteurs de la centrale de Fukushima. Bon, on ne va pas vous rentrer trop dans les détails, mais voilà, donc c'est quand même un triste anniversaire. Je ne sais pas si tu voulais rajouter deux, trois mots.
Bah, on a quand même un petit robot là qui a réussi à capter des images du cœur complètement fondu. C'est la première fois qu'une machine a réussi à tenir, résister au niveau de radiation qui défonce tout, donc même le non-vivant. Et on a aussi encore et toujours la problématique de l'eau ultra contaminée qui a servi au refroidissement, qui va très probablement être jetée dans l'océan.
Voilà,
bon anniversaire, Fukushima.
Donc pour l'occasion, on va passer une petite musique d'anniversaire. Voilà, je pense que vous connaissez la version originale et il y a une petite modification, je vous laisse la surprise. Voilà, c'était, je crois que c'est une version qui date de 2012. Qui a été,
un an après.
Voilà, tout à fait, et qui a été jouée au Japon. Voilà. Thank you.
les catastrophes nucléaires, on va évidemment faire un petit tour par l'Ukraine. L'Ukraine et son site bien connu malheureusement, Tchernobyl, où il y a eu donc la catastrophe de 1986, le réacteur 4 a explosé. L'Ukraine qui, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, est malheureusement l'objet d'une invasion des forces armées russes. L'Ukraine qui est aussi donc un pays nucléarisé. Alors, réacteur de recherche à Kharkiv qui a été l'objet de tirs russes. Installations de déchets un peu répartis partout qui ont été l'objet de tirs russes. Centrale de production d'électricité de Zaporizhzhia qui a été l'objet de tirs et de bombardements russes, qui est occupé par les Russes. Deux réacteurs ont été touchés. Et le site donc de Tchernobyl, le site de Tchernobyl qui depuis peu est sans électricité. Tchernobyl, c'est une centrale nucléaire donc, qui ne produit plus. Les quatre réacteurs sont arrêtés. La catastrophe de 1986 a fait exploser le réacteur 4. Il y a une zone d'exclusion de plusieurs kilomètres où il y a une montée de radioactivité simplement due au passage de l'armée russe, au fait qu'elle retourne les terres tellement c'est encore contaminé là-bas. Et donc tout le site est occupé depuis le début de l'invasion russe, enfin le lendemain, depuis le 24 février. On a appris cette semaine que depuis le 9 mars, coupure de l'alimentation électrique sur le site. Le problème, c'est que toute installation nucléaire a deux besoins essentiels, avoir de l'eau et avoir de l'électricité. Sur le site de Tchernobyl, qu'est-ce qu'on a ? On a donc trois réacteurs qui sont arrêtés. On a le réacteur 4 qui est sous un sarcophage qui a été fini en 2017. À quoi il sert ? En gros, c'est un gros coffre qui enferme tout ce qui reste du réacteur 4 et qui permet de confiner dans ce sarcophage tout ce qui est très très radioactif, qui sinon se baladerait comme ça dans l'air et pourrait être mobilisé au moindre coup de vent. On se rappelle aussi que sous ce premier sarcophage, il y avait quand même une première construction d'une structure dans l'urgence, juste après la catastrophe. Et cette structure-là, elle risque en fait très fortement de s'effondrer. D'où l'importance qu'on ait un sarcophage par-dessus qui empêche de se tout remettre en suspension. Et sur le site, on a aussi donc deux installations qui servent à entreposer le combustible nucléaire usé des réacteurs 1, 2 et 3. Qui, ont été arrêtés dans les années 2000. Donc, il y a deux installations différentes, une où le combustible est sous l'eau, donc dans une piscine, et une où il est suffisamment refroidi pour être à l'air libre. Suffisamment refroidi, oui, parce qu'en fait, donc, le combustible usé d'une centrale nucléaire dégage de la chaleur pendant très très longtemps après avoir servi. Du coup, il a besoin d'être tout le temps refroidi. Alors, il y a une petite particularité en plus, c'est que ce combustible du réacteur de Tchernobyl est particulièrement fuyard, c'est-à-dire que la matière radioactive qui est dedans a tendance à se faire la malle. Donc l'eau de la piscine dans laquelle sont entreposés ces assemblages de combustible est très très radioactive. L'eau, mais l'air aussi. D'où l'importance d'avoir une bonne ventilation des locaux. Il n'y a pas que pour le Covid que c'est utile. Alors, on a eu ces derniers jours des communications en français des autorités officielles. Donc, on a eu l'Agence internationale de l'énergie atomique, on a l'autorité de sûreté nucléaire, on a l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui se veulent très, très rassurants. Certes, il n'y a plus d'électricité à Tchernobyl. Les lignes électriques qui alimentaient le site ont été bousillées par le conflit armé. Mais pas de panique, le combustible qui est encore dans les piscines est déjà bien froid et refroidi depuis les années 2000. Si la piscine n'est plus refroidie parce qu'il n'y a plus d'électricité pour faire tourner les pompes et pour refroidir l'eau, la chaleur que dégage ce combustible usé n'est pas suffisante. Pas de panique, l'eau ne va pas se mettre à bouillir, les assemblages ne seront pas, comme on dit, dénoyés. Sauf que l'autorité de sûreté ukrainienne, elle, donc la SNRIU, la SNRIU, nous en dit plus sur les risques associés à la perte d'électricité sur le site. Alors, bah oui, si on sait lire un petit peu en anglais, on a déjà des infos un peu plus précises. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que, bon, bah oui, les pompes qui servent à faire circuler l'eau de refroidissement s'arrêtent sans électricité. Ça nous dit aussi que, bah, tout simplement, il n'y a plus de lumière. Ça nous dit aussi qu'il n'y a plus rien qui marche pour mesurer la radioactivité dans l'air, ni pour que les alarmes se déclenchent en cas de montée de radioactivité. Ça nous dit aussi que la ventilation ne tourne plus et les systèmes qui filtrent l'air non plus. Alors bon, cette ventilation, elle est particulièrement importante pour maintenir une ambiance saine. Ça permet aussi de refroidir, ça permet de filtrer, ça permet de refroidir. Ça permet donc aux équipements de ne pas être trop abîmés par une radioactivité ambiante, mais aussi aux travailleurs. Sans ventilation, les pauvres vont respirer encore plus de radioactivité. Ces travailleurs et travailleuses qui ont quand même des conditions de travail, rappelons-le, ultra dures, ils sont sur place depuis le 24 février, même depuis la veille en fait. Ils n'ont pas eu de relève, ils sont sous le coup des armes russes. Et évidemment, bah, ils n'ont pas à boire, pas à manger, ils sont dans le noir. Des ambiances, enfin une ambiance de travail qu'on imagine très très sympathique. Donc la ventilation sert aussi à maintenir dans les bâtiments la radioactivité, ce qu'on appelle bah, le confinement, hein, quand on vous empêche de sortir, c'est un confinement. La radioactivité, et on aime qu'elle soit contenue, confinée, et qu'elle ne se balade pas comme ça à l'extérieur. La ventilation, ça sert aussi à éviter bah, les explosions, parce que en fait, quand il y a de la radioactivité, et que la chaleur monte, il y a tendance à produire de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est un gaz qui est hautement explosif, à peu près 4% dans l'atmosphère, et ça suffit avec une petite étincelle à faire un joli feu de joie. Donc là, l'absence d'électricité sur le site de Tchernobyl prend une toute autre ampleur. Après, plus d'électricité, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus rien qui marche pour éteindre les incendies. Et ça, bah, évidemment, en cas de bombardement, ça peut être utile. Alors, comme tout site nucléaire, heureusement, Tchernobyl a des générateurs de secours qui marchent au diesel. Sauf que, bah, comme tous les générateurs de secours qui sont sur les sites nucléaires, ils sont en général pas très bien entretenus et ils n'ont des réserves que pour 48 heures. Donc la coupure a eu lieu le 9 mars, on est le 11 mars. Autant vous dire que c'était extrêmement critique. Ces diesels alimentent seulement les équipements les plus importants, ils ne peuvent pas pallier l'alimentation électrique classique. Évidemment, ça provoque encore plus du stress pour les équipes déjà sur place. Alors, il y a deux diesels qui équipent le sarcophage du réacteur 4. Et il y en a d'autres pour l'entreposage de combustible qui est en piscine. Évidemment, en conflit armé, on imagine bien la difficulté d'approvisionnement et tout l'enjeu qu'il peut y avoir autour du carburant. Une communication est arrivée cet après-midi de la SNRIU. Ouf, le site a pu être ravitaillé en carburant. Par ailleurs, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de réparer les lignes électriques du réseau national d'électricité. Par contre, tout ce qui permet de mesurer la radioactivité dans la zone d'exclusion de Tchernobyl est toujours complètement hors service. Tout ça, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que vraiment les centrales nucléaires sont ultra vulnérables, que même arrêtées et même depuis des années en cas de conflit armé, ça devient réellement des armes et que quand les centrales nucléaires sont prises en otage, ça ne peut que mal se passer.
Oui, et c'est d'autant plus des points très facilement identifiables. Donc voilà.
Pareil, tout le monde sait où elles sont.
Voilà, et donc on va parler d'un point très facilement identifiable qui est le budget. On va vous parler maintenant d'un projet. On l'avait déjà évoqué il y a quelques mois, il y a plusieurs mois. C'était une rumeur, il y avait une rumeur de blanchisserie. Alors pas n'importe quelle blanchisserie, une blanchisserie de linge contaminé nucléaire, donc une rumeur de blanchisserie dans le budget. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la société Unitech qui, d'un coup, a décidé d'acheter 40 000 mètres carrés dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Et en fait, on sait que Unitech, ils ont quand même un peu en tête de faire des blanchisseries nucléaires, puisqu'ils ont déjà eu des tentatives de projet. Mais à l'époque, Unitech avait démenti. Et du coup, c'était un peu retombé. Mais on avait dit, peut-être que voilà. Mais Unitech avait d'autres projets ailleurs. C'est pour ça qu'il y avait des suspicions. Et ces autres projets, ils étaient dans notamment la Haute-Marne.
Et oui, quand le milieu antinucléaire a vu popper Unitech dans la Plaine de l'Ain, évidemment, ça n'a fait ni une ni deux. Hop, association avec la Haute-Marne. La Haute-Marne, pas très loin de chez nous, mais un tout petit peu plus dans le nord-est. Où déjà dans les années début 2016 avait popé un projet de laverie nucléaire porté par la société Unitech autour de Joinville. Donc Joinville, c'est une petite bourgade donc de la Haute-Marne. Joinville et Suzannecourt, où étaient dans les tuyaux un projet de méga laverie nucléaire pour le bas mot d'à peu près 16 millions d'euros qui aurait rapporté, oh mon Dieu, 40 emplois locaux. Waouh, super, ça vaut vraiment le coup de polluer le lac du Der pour ça. Donc le lac du Der, c'est un très très joli lac qui est pas loin du tout et qui aurait été en fait... qui est en plus un des centres touristiques du coin et qui aurait été salement ravagé si cette laverie s'était implantée là-bas. Alors du coup, une association s'est carrément créée pour lutter contre l'implantation de cette laverie à Joinville. Une association qui s'appelait donc justement nommée Joinville Lave Plus Propre pour lutter contre cette grosse blancherie nucléaire de linge contaminé. Et d'ailleurs, parce qu'il était question aussi que ça ne reçoive pas que le linge français, mais aussi un petit peu de toute l'Europe, puisque c'était très bien situé au carrefour de plusieurs routes. Il y a quand même eu un permis de construire accordé en 2018. L'implantation de l'usine était prévue pour 2020. Mais grâce à la lutte locale, il n'en fut rien.
Voilà, il y a eu pas mal de mobilisations. Et du coup, Unitech s'est dit, on se fait virer d'un côté. Où c'est qu'on peut aller ? Ce qu'ont les craintes, justement, de novembre sur Unitech qui vient, comme par hasard, acheter et mettre la main sur 40 000 mètres carrés dans le parc industriel de l'Ain. Ça s'est confirmé cette semaine. En fait, le projet en question est bien une blanchisserie de linge sale nucléaire, mais avec en prime. Alors, je ne sais pas si c'était déjà le cas en Haute-Marne, mais en tout cas, c'est le cas dans le budget. Vient se greffer une usine qu'on appelle entre guillemets de requalification d'objets contaminés. Donc en fait, tout ce petit pactole de business de blanchisserie nucléaire se partage entre Unitech et l'industrie aussi qui s'appelle Curium. Donc
ouais, Curium, un petit groupe sympa d'industrie, enfin de société obscure. On connaît les activités du groupe par ailleurs, notamment dans la sphère de production de trucs radioactifs pour le médical. Et oui, pour passer des radios, il faut bien des sources médicales. Pour faire certains diagnostics, il faut des sources radioactives. Et Curium est professionnel là-dedans. Curium est aussi un spécialiste du multirisque, c'est-à-dire on a du nucléaire et puis on a aussi d'autres saloperies avec. Appelez Curium, il interviendra. Voilà, tout ça laisse présager un magnifique, magnifique projet dans le budget. 30% du linge sale est contaminé provenant de sites nucléaires français. Et tout ça, c'est un cadeau, oui, un cadeau du plan de relance macronien.
Et d'ailleurs, en fait, je pense qu'on avait passé à un moment donné un extrait du Pélo du Bullet qui se vantait de dire « Oui, le budget veut accueillir des projets nucléaires. » Alors, ça parlait plutôt des EPR à l'époque.
Oui, c'est aussi des projets d'EPR.
Mais oui, parce qu'il y a aussi des projets d'EPR.
La plaine de Lens appelle, alors, les élus
pour l'instant,
de la plaine de Lens appellent de leur vœu l'implantation.
Mais il y a un peu une volonté, je ne sais pas, de la plaine de Lens d'accueillir ce type de projet. Enfin, bref, on va faire scission avec la plaine de Lens. Le budget ne va plus faire partie de la plaine de Lens.
Le budget libre, ça va être une réalité.
Voilà.
Laissez le budget tranquille.
En tout cas, ce type d'industrie, bah, en fait, il faut imaginer ça. Alors, indépendamment du fait que ça soit une industrie qui va brasser pas mal de matériel qui s'est fait contaminer, c'est une grosse industrie chimique. Donc, ça implique de fait pas mal de, des produits chimiques en grosse quantité avec des rejets. On sait que ça va entraîner forcément des fuites, des incidents, attirent l'arigot, donc des fluents qui soient liquides ou gazeux, etc. Et là, pour le coup, non seulement ils sont chimiques, mais en plus, vu la nature des, j'allais dire des déchets, mais c'est un peu comme des déchets, mais en tout cas, la nature du linge qui est traité, il y a aussi, il peut être de nature aussi radioactif, enfin tous les déchets peuvent être de nature radioactif, et ça, alors après, pour que tout ça arrive jusque dans la plaine de Lens, figurez-vous que, il faut les transporter, et qui dit transport dit route, train, etc., etc. Et donc ça aussi, ça génère pas mal de trafic. De transport de matières radioactives dans l'infrastructure routière ou ferrée un peu de partout, quoi. Et ça, d'ailleurs, il y a des enjeux de lutte parce que c'est souvent invisibilisé, c'est très discret. Ça génère aussi ce type de nuisance. Et puisque qui dit transport, notamment routier, dit accident. Et un accident routier avec des matières radioactives, non seulement ça fait des morts, mais en plus ça peut faire des fuites radioactives, donc ça démultiplie ce type de dégâts.
Voilà, donc bingo pour le budget. Non seulement une bonne laverie bien dégueu comme le sont toutes les laveries, mais en plus donc radioactive. Super, on a tout gagné. Alors comment ils présentent ce projet? C'est le projet Hyper, on ne sait pas trop comment ça se dit, c'est français, donc Hyper, H-I-P-E-R.
Lave plus blanc que blanc. Quoi,
un magnifique projet qui permet la relocalisation de la gestion du linge de la filière nucléaire.
Ouais, donc ça, c'est leur terme. Hein. Relocalisation de la gestion du linge de la filière nucléaire, c'est leur terme. Mais il y a d'autres trucs, notamment...
C'est pour ça qu'ils ont été lauréats du plan de relance de Macron, puisque donc ça a cet avantage de relocaliser une activité.
Voilà, et ils osent même employer des termes comme développement de modèles d'économie circulaire
au sein de la filière. Bon, c'est vrai que la centrale nucléaire n'est pas très loin.
Mais voilà, ouais. Donc,
c'est du local finalement.
Ah oui, donc, on est dans le local, on promue le local comme ça, c'est génial. Et donc il y a notamment, et pareil, ils parlent de projets innovants au sein d'un hall. Qui est un
modulable
de propreté radiologique. Et donc, en fait, ça rentre complètement dans l'imagerie qu'on se fait du nucléaire, c'est-à-dire quelque chose de propre, quelque chose de clean, les gens qui sont en combinaison avec rien qui traîne, etc. Et donc, l'image de l'industrie nucléaire, ça rentre complètement dans l'imagerie qui veut être véhiculée de l'industrie nucléaire. Alors qu'une industrie nucléaire, c'est une industrie. Et c'est dégueu.
Et mais la radioactivité, ça ne se voit pas.
Alors, en tout cas, là-dessus, il y a un collectif, quand même, dans le budget, qui lutte contre l'implantation de ces grosses industries dégueu, et notamment des industries nucléaires. Pardon. Et donc, il y a une action qui est prévue le 26 mars. Donc, notez dans vos agendas.
Voilà. Allez squatter les ronds-points.
Voilà, donc
prenez thermos, c'est tout ce que vous voulez.
Voilà, donc ça va être squattage de ronds-points
dans la plaine de Lens
pour dénoncer ce projet qui est malheureusement qui prend une tournure beaucoup plus concrète qu'il y a quelques mois.
Et donc, plus d'infos sur SDN Budget.
Et maintenant, on va parler, a priori, de gaz de schiste.
J'ai trouvé de drôles de rumeurs sur le gaz de schiste. Il paraît que ça pourrait contaminer les autres sources, que ça tuerait les cultures aussi. Certains ont dit qu'ils ont pu mettre le feu à leur eau courante. On parle aussi de cas de cancer. Oh, Steve, ça a l'air vilain, non ?
Attention, on va en arriver à des extrémités. Il y a des dépôts qui vont se mettre à flamber. Il ne faudra pas demander d'où ça vient.
Voilà, j'adore ce jingle et dès que j'aurai une rubrique qui parle de gaz de schiste, je vous promets que je vous le mettrai.
Les plus nerds entre vous ont reconnu.
Donc oui, en fait, avec la guerre en Ukraine, ben, en fait, la question de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie est forcément vite venue sur le tapis. Et dans les solutions qu'on entend par-ci, par-là, on se rend vite compte que c'est malheureusement prétexte à renforcer le discours de la course au nucléaire et qu'en termes de gaz, le gaz de schiste risque d'arriver en pole position. Alors en fait, pourquoi je parle un peu de ça ? Parce que j'ai lu surtout ce matin que, par exemple, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a déclaré qu'il y aura du gaz, quel qu'il soit. On est en situation d'économie de guerre. Voilà. Alors, autant vous dire que le quel qu'il soit, ça veut dire, comprenez, gaz de schiste. Voilà. Pour poursuivre, il a ajouté, il faut tout faire pour s'en débarrasser. Donc, il parle des hydrocarbures russes. Quitte à mettre toutes les options sur la table, y compris prolonger les centrales nucléaires en veillant que les risques soient évidemment nuls. Alors, je trouve que ça résume assez bien cette vision à trouver comme seule alternative à la dépendance énergétique une surenchère dans le nucléaire et un gaz ou pétrole issu des pires systèmes d'exploitation d'hydrocarbures. Et je pense que des personnes comme Thierry Breton, pour ces personnes-là, les options possibles se résument vraiment uniquement à ces deux horizons. Et associer les mots prolongation de centrale nucléaire avec risque nul, ça fait doucement rigoler. Et dans le fantasme, donc on tombe complètement dans le fantasme du grand carénage, qui, je vous rappelle, c'est quand même un truc qui consiste à redonner 30 ans de points de vie aux centrales. Et donc ça, c'est faire fi de tous les nombreux incidents et des difficultés d'exploitation qui surviennent chaque année dans les centrales. Et donc voilà, on voit bien que le sacrifice donc, du pétrole et gaz russe, il vient pour augmenter le risque nucléaire. Donc merci. Et concernant justement, parce que je voulais parler de gaz de schiste quand même à la base, concernant le fameux gaz quel qu'il soit, on peut l'appeler comme ça maintenant, le gaz, quel qu'il soit. Donc si en Union européenne on décide de couper la source de pétrole et de gaz russe, il y a un pays qui pourrait bien en profiter, et ben, c'est les États-Unis. En 2021, l'Union européenne importait 5,8% de gaz donc, en provenance des États-Unis. À titre de comparaison, 48,4% provenait de la Russie en 2021, 18% de la Norvège et 13,5% de l'Algérie. Mais on imagine assez bien que ce chiffre puisse augmenter assez vite. Seulement, le gaz états-unien n'est pas très climato-compatible. Il faut savoir qu'en 2020, les États-Unis, selon l'EIA, donc qui est l'Energy Information Administration, donc qui est le site officiel de données sur l'énergie américaine, précisait que 65% de la production du pétrole brut, c'est du pétrole de schiste, et 79% de la production de gaz, c'est du gaz de schiste. Alors pour rappel, la technique d'exploitation des hydrocarbures de schiste, ben, c'est une technique qui s'appelle la fracturation hydraulique. C'est une technique d'exploitation qui est absolument catastrophique, qui consomme et pollue énormément d'eau et qui a des conséquences écologiques et humaines désastreuses. Mais ce gaz de schiste est, entre guillemets, blanchi dans le transport, car on ne parle jamais explicitement de gaz de schiste lorsqu'il vient, par exemple, par bateau, ce qui est un peu le cas actuellement. On parle, quand on parle de ça, on parle plutôt de gaz naturel liquéfié. On le condense à l'état liquide. Mais en fait, ça mélange tout type de gaz, traçabilité zéro. Et du coup, si votre bateau vient des États-Unis, vous avez 79% du gaz qui vient de l'exploitation schisteuse. Alors, il y en a qui doivent bien se frotter les mains, d'autant plus que l'exploitation par fracturation hydraulique a un coût assez élevé, en fait, ça pourrait s'avérer beaucoup plus rentable actuellement avec la hausse du prix de l'énergie. Et d'ailleurs, en janvier, ça a démarré très fort, puisque 45% des importations européennes de gaz naturel liquéfié, justement, provenaient des États-Unis. Voilà. Donc, petit clin d'œil d'ailleurs à Engie, on en avait parlé vite fait au début, début d'année, parce qu'ils avaient signé un contrat un peu en loose day un contrat de 11 ans d'exploitation de gaz de schiste avec la société gazière américaine Schneider Energy. Donc eux, ils avaient placé leur bille bien avant l'heure en se disant, le vent peut tourner.
C'est le jackpot.
Voilà, tout à fait, c'est le jackpot. Donc tout ça pour vous dire que là, les alternatives, malheureusement, telles qu'elles sont présentées, c'est pas du tout... Alors évidemment, les personnes qui vont en chier le plus, c'est les personnes qui sont dans les zones d'exploitation de gaz de schiste et qu'on surexploite là-dessus. Et puis, comme alternative, prolongation des centrales nucléaires, évidemment, ça ne fait pas rêver, quoi.
La planète aussi, hein, quand même. Elle en chie.
Et alors, je crois que maintenant, on doit passer à
l'agenda.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Alors, cette semaine, c'est un agenda condensé. Donc si demain, vous avez prévu plein de trucs, bah, ça va être chiant. Mais si vous n'avez rien prévu, par contre, vous aurez de quoi vous occuper toute la journée. Et ça va commencer dès 11h et jusqu'à 13h avec les permanences d'accueil de la CNT Interco 69. Tu as des questions sur les droits en tant que travailleuse ou travailleur, tu veux des infos sur la CNT, tu penses à te syndiquer mais tu ne sais pas comment faire, tu aimerais rencontrer la CNT, tu peux bien aller aux permanences qui ont lieu au 44 rue Burdeau à Lyon 1. Et puis, quand tu auras fait ça, tu auras juste le temps de manger et de boire une petite bière éventuellement pour aller aux infoshops de la Lutine. On ne va pas vous faire tout le descriptif puisque c'est toutes les semaines, mais c'est toujours de 14h à 18h. Et à 18h, il faudra choisir. Il y a une rencontre-débat avec Aurélie Berland autour de son bouquin et de son podcast qui s'appelle « Terre et liberté ». C'est Floraison qui vous invite et ça se passera donc de 18h à 19h30 à La Griffe, rue Sébastien Griffe, évidemment, à Lyon. Et puis un peu sur le même temps, même si ça débordera, c'est le collectif Nina Lyon qui vous invite à un bar de soutien à partir de 18h à l'atelier des Canulars. Et de soutien à quoi ? Aux anarchistes ukrainiens. Et enfin, pour finir sur ce samedi 12 mars fort chargé, y a les punks qui s'organisent pour la semaine du féminisme avec de 20h à 22h deux concerts. Donc il y aura les Single Ladies et Corolle à l'Astor Hotel dans le 9e, c'est quai Arloin. Et je vous ai dit une bêtise. Ah non, c'est bon, c'est bien le 12 mars, pardon. Et enfin, pour finir cette semaine... jeudi, comme tous les troisièmes jeudis du mois, c'est à 19h et à l'amicale, c'est l'auto-école autogérée qui vous donne rendez-vous.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire AK
Cagnosco du vendredi.
Très bonne question, Marius. Eh bien, écoute, aujourd'hui, vendredi 11 mars 2022, à Cap, ça veut dire arrêtons les centrales, allons dans le budget.
Ah, on a perdu une musique pour finir.
On a une petite musique de fin pour vous.
Alors, soit elle arrive, soit on conclura. Il est 19h54 et nous cherchons la musique. La musique s'est perdue, du coup. Ouais, le Canu Info, c'est fini, mais il y aura quand même un petit peu de musique avec les bandes continues. Et puis à 20h, ce sera Noise Pollution. Et puis dès lundi prochain à 19h. Les Canus Info tous les soirs.